Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com.
Bonjour, c'est Jules Lavie pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. Vous avez sans doute entendu parler du scandale du charnier de Descartes, affaire révélée par une journaliste de l'Express en novembre 2019. À l'université Paris-Descartes, des centaines de dépouilles étaient stockées dans un état déplorable, parfois dans des sacs poubelles. Le site, l'un des plus grands centres d'anatomie en Europe, recevait chaque année des centaines de corps d'hommes et de femmes qui espéraient faire avancer la science. Au mois de juin, leurs familles se sont regroupées en associations pour avoir accès à l'enquête. Claudia Prolongeau.
Bonjour, c'est Claudia Prolongeau.
J'ai rencontré Carole et Michel grâce à un jeune homme qui s'appelle Baudouin.
Bonjour.
Et eux-mêmes ne se seraient sans doute jamais croisés s'ils n'avaient pas eu ce point commun d'avoir perdu, ces dernières années, un être proche qui a donné son corps à la science.
C'était un camionnier. Merci. Et donc vous êtes sœurs.
C'est ça.
Carole et Michel m'accueillent dans un appartement qu'elles ont en commun à Paris, mais où elles n'habitent pas. Elles vivent à Saint-Gratien, dans le Val d'Oise, juste à côté l'une de l'autre, et sont ou étaient toutes les deux professeures d'histoire à l'université. Elles ont 58 et 67 ans.
Je m'appelle Carole. C'est ma maman, qui s'appelait Ginette Hugues, qui avait donné son corps à la science. Elle a donné son corps dans les années 80. Donc elle avait une cinquantaine d'années, c'était quelque chose qui lui tenait à cœur. Voilà, elle pensait que c'était une manière de continuer à servir à quelque chose, même après la mort. Elle est morte, elle avait 87 ans. Jusqu'à sa mort, il ne se passait pas trois jours sans qu'elle nous en parle, qu'elle nous montre sa carte de donneur qui était sur son buffet. C'était vraiment quelque chose de très important pour elle. Je pense que ce n'est pas tout à fait la même chose pour Michel et pour moi. Sur le moment, j'ai trouvé que c'était une idée formidable et je ne m'étais pas projetée sur ce qui arriverait au moment de son décès.
Michel, donc, vous êtes la sœur ?
Oui. En fait, j'ai eu quelques doutes au début. J'ai même appelé le centre de don des corps pour leur demander comment ça se passait. Ils m'ont rassurée. Et je ne me suis pas vraiment posé la question de savoir s'il fallait faire quelque chose pour en dissuader ou pas, parce que je n'aurais pas pu le faire. C'était vraiment sa volonté.
C'est quand même une certaine violence. C'est-à-dire que ce que je n'avais pas anticipé, c'est qu'elle allait partir exactement comme elle était morte. C'est-à-dire absolument pas préparée physiquement, donc voilà. Elle est partie nue, par exemple, c'est aussi quelque chose qui est particulier. Elle est partie très vite, c'est-à-dire dans les 24 heures de mémoire. Hein. Et puis la difficulté ensuite, qu'on a surmontée quand même, hein, mais la difficulté d'organiser sans corps une cérémonie. Alors heureusement, l'Église a progressé sur toutes ces questions, puisque effectivement, on a pu quand même organiser une cérémonie qui s'est déroulée à l'Église avec simplement la photo. Par contre, c'est plutôt les premiers moments. Ça, c'est vrai que j'avais pas du tout anticipé que ça serait à ce point difficile. Moi, j'avais l'impression qu'elle s'était évaporée. C'est d'ailleurs les termes que j'ai repris quand quelques jours après, j'ai envoyé un mail à Descartes pour leur demander s'ils pouvaient malgré tout me donner quelques précisions sur ce qu'il en était advenu. Parce que j'avais le sentiment que, voilà, qu'elle s'était volatilisée quelque part.
Ginette est morte le 15 mars 2015, à l'hôpital. Immédiatement, ses filles ont prévenu qu'elle souhaitait donner son corps à la science.
On est allé récupérer la fameuse carte de donneur sur son buffet. On l'a donnée à l'infirmière qui nous a dit, écoutez, on organise tout. Elle va aller au petit funérarium de l'hôpital jusqu'à ce que le transporteur vienne la chercher. La famille a pu aller la voir. Mais c'est vrai que, comme disait Carole, elle n'était pas préparée. Elle était sous un drap, voilà. Et puis le transporteur est venu la chercher, je l'ai interrogée, il a été très rassurant, en disant de ne pas m'inquiéter, que le corps était traité avec respect, d'où notre sidération, comme dirait Carole, au mois de novembre, quand l'article d'Anne Jouan est paru dans l'Express.
J'ai envoyé un mail, donc, mais bon, sans plus, hein, on ne s'est pas déplacé, on n'est pas allé voir, on se doutait que les choses suivaient son cours, si je puis dire. Mais il y a ce qu'on avait imaginé, et puis bien entendu ce qui s'est passé.
Le mail de Carole reste sans réponse et les deux femmes s'habituent à l'idée que ces quelques heures au funérarium et cette cérémonie sans corps sont ce qui leur restera de leur mère. Comme pour beaucoup de familles de défunts dans ces cas-là, c'est évidemment compliqué, mais elles l'acceptent, jusqu'au 27 novembre 2019. Ce jour-là, Carole se lève comme d'habitude avec France Inter.
Ce qui va suivre est épouvantable. On parle d'un charnier au cœur de Paris, à la fac de médecine René Descartes, où les corps destinés à la science ont été conservés pendant des années dans des conditions indignes, selon une enquête de l'Express.
Je me souviens très bien de la frénésie de la matinée où j'ai essayé d'envoyer des messages à la famille pour leur dire « Essayez d'écouter, j'ai entendu cette information rapidement au journal ce matin, essayez de creuser un peu. » Et ça s'est véritablement emballé, puisque on est une famille nombreuse, hein. Michel a 4 enfants, moi j'en ai 3. Ils se sont tous mobilisés pour chercher des informations. Plus la journée avançait, plus on était mal. Moi j'ai fini à 5h de l'après-midi, j'étais couchée dans mon lit avec des douleurs épouvantables. Moi qui n'ai jamais mal nulle part, quasiment. J'étais pliée en deux dans le lit. Et je pense que tout le monde a fini la journée, en tout cas très très mal, puisque on ne se souvient plus exactement par quel canal, un réseau social quelconque. On est tout de suite entré en contact avec d'autres familles qui, comme nous, découvraient la chose, alors qu'on ne se connaissait absolument pas. Bien sûr, depuis, on a appris des choses encore plus graves, peut-être, mais les révélations du 27 novembre étaient déjà pour nous sidérantes, complètement.
Dans cet article signé par Anne Jouan, on apprend que l'état de vétusté du centre et le délabrement des locaux sont très avancés, que les corps ne sont absolument pas respectueusement gardés, mais entassés dans des endroits parfois même pas réfrigérés. Ils sont abandonnés à la pourriture et aux rongeurs, et même, dans certains cas, vendus, entiers ou en morceaux, à des industriels qui en ont besoin pour faire, par exemple, des crash tests sur de nouveaux modèles de voitures.
On est en plein Paris, c'est l'université française pour laquelle j'ai quand même un grand respect, d'autant plus qu'elle me nourrit. Pour moi, c'était impensable. On était terrifiés, on était abasourdis, on avait vraiment même peine à y croire.
Moi, ce qui m'a vraiment plongée dans un état de sidération, il n'y a pas d'autre mot, c'est l'idée que, contrairement à ce qu'elle avait pensé toute sa vie depuis qu'elle avait donné son corps, donc des dizaines d'années, c'était qu'elle n'avait pas été utile. Et ça m'a profondément choquée. Elle a été abusée sur ce qu'elle souhaitait plus que tout au monde, c'est-à-dire que son corps, qu'elle n'attachait pas une grande importance. Hein, je crois qu'elle croyait à l'âme, et pu être gâchée, finalement. Ce dont elle avait rêvé toute sa vie, c'est-à-dire se rendre utile après sa mort, n'est très certainement pas arrivé.
Quelques heures après la publication, un groupe Facebook pour les proches des victimes du charnier de Descartes est créé par Baudouin, dont nous avons parlé plus tôt. Il compte aujourd'hui plus de 260 membres, dont quelques journalistes, et sert aux familles à organiser la riposte.
Depuis la révélation des faits, on n'a rien fait qui soit individuel. En fait, on a toujours agi de concert avec les autres. Les autres, c'est-à-dire au début, les quelques familles. Hein. Bien entendu, dès les premiers jours, tout le monde s'est spontanément tourné vers le centre de don des corps, qui au départ nous semblait assez libre d'accès. On rentre dans l'université, il y a un vigile, si vous présentez bien, vous passez sans problème. Et puis, on monte au 5e étage et il y avait le centre de don des corps. Donc les premières familles sont allées demander ce qu'il en était. Et rapidement, l'université a réagi en commençant évidemment à barrer l'accès. Donc on avait décidé de mettre au point une stratégie de harcèlement et on se relayait pour soit téléphoner, soit y aller pour simplement dire « Voilà, mon père, ma mère, mon oncle est décédé à telle date, pouvez-vous me donner la date d'incinération ? A-t-il été utilisé ? Dans quelles conditions ? À quelle date a-t-il été incinéré ? Etc. » Donc certains ont entendu parler de la cérémonie qui avait lieu au Père Lachaise, d'autres jamais. Certains ont eu des informations avec la date d'incinération, d'autres jamais. Et à un moment, on s'est même dit « Eh bien, c'est très simple, ils racontent n'importe quoi. »
Cette cérémonie, Carole et Michel en entendent parler par d'autres familles. Elle est organisée par le Centre du don des corps de Descartes et celui de l'École de chirurgie du Fer à Moulin, dans le 5e arrondissement de Paris. Le samedi 18 janvier, il y en a justement une auquel les familles décident de se rendre.
On a eu cette idée, qui n'était peut-être pas bonne, mais enfin en tout cas voilà, on a eu cette idée d'aller un samedi matin au Père Lachaise, tout en respectant la cérémonie qui s'y déroulait, parce qu'évidemment il ne s'agissait pas de perturber cette cérémonie qui, on s'en est aperçu, pour beaucoup de familles, remplace les funérailles. On était venus chacun avec une photographie du défunt pour lequel on venait, avec son prénom et puis une interpellation du type qu'est-elle devenue, qu'en a-t-on fait, etc. Et quelques familles sont venues nous interpeller très violemment, ce que je comprends effectivement après, en nous disant que c'était indigne, que voilà, qu'il y avait, c'était vraiment ni le lieu ni le moment, et je peux comprendre cette réaction. Est venu aussi nous voir le directeur de l'école de chirurgie. Il est venu en fait nous expliquer que ça valait quand même le coup de donner son corps à la science et que dans l'école de chirurgie, il y avait un protocole, que les corps étaient reconstitués, qu'ils étaient incinérés de manière individuelle, que les cendres pouvaient être restituées à la famille si la famille en faisait la demande. L'écarissage, c'est pas une fatalité, puisqu'à l'école de médecine, on fait autrement.
Donc vous pensez que ça vaut quand même le coup de donner son corps à la science ?
Je ne sais pas encore.
Donc ça, c'est une photo de votre mère ?
C'est celle que l'on avait mise à la fois pour la cérémonie d'enterrement. On avait choisi cette photo, donc qui remplaçait le corps, et celle que j'avais utilisée au Père Lachaise avec donc une question. Je crois que j'avais mis « Comment l'a-t-on traité ?» il me semble. Comment l'a-t-on traité ? Parce que je trouvais que ça correspondait véritablement à ce qu'on ressentait, quoi. Elle était partie finalement avec l'idée d'être utile, et il est fort probable que ça ne soit pas du tout passé comme ça.
Carole a oublié de dire que après la cérémonie, ses obsèques, on peut dire, on a déposé sur la tombe de mon père une plaque, puisqu'on n'avait pas de corps, qui disait « Où qu'elle soit, Ginette repose ici avec l'amour de sa vie ».
C'est à cette cérémonie que Carole rencontre Laurence. Michel l'avait déjà vue quelques semaines plus tôt, et c'est elle qui est à l'origine de beaucoup d'actions de groupe. Je suis allée la voir à mon tour dans son cabinet de sophrologie à Boulogne. Le 5 juin, elle m'avait contactée pour m'annoncer que près de 70 familles se constituaient en association de plaignants.
Ma maman, Marie-France, qui est décédée en août 2015, avait donné son corps à Paris Descartes. Ça a été très vite mon but, c'était d'obtenir justice, de ne pas laisser ça en l'état, parce que c'est insupportable, et parce que c'est trop facile de profiter des morts, ils ne peuvent pas se révolter. Donc je pense que c'est à nous de le faire, les familles. J'ai essayé de réunir plein de gens très vite. Les familles qui ont voulu venir sont venues, et puis là, ça a commencé à se mettre en route.
Depuis, Laurence consacre une grande partie de son temps à ce que tous appellent pudiquement l'affaire.
Oui. Non. Dites-moi.
C'est souvent elle qui sollicite et répond aux journalistes. Elle encourage aussi des familles à les rejoindre. Dites-moi. Mais le dépôt de plainte n'est pas une évidence pour tout le monde.
Il y a forcément un problème financier pour certains, parce qu'un avocat, il faut le payer, ça coûte de l'argent. On sait qu'on est engagé pour plusieurs années, a priori, surtout vu la lenteur à laquelle avance l'affaire. Donc ça fait des sous à sortir et il y a des gens qui peuvent pas. Et puis il y a des gens qui se disent peut-être que ça sert à rien, parce que de toute façon, on n'aura pas réparation. Voilà, il y a tout ça. Hein. Et puis il y a des gens qui n'ont pas envie non plus de remuer des choses qui font mal. Voilà, mon papa a porté plainte avec moi, mais il ne s'occupe de rien du tout. Parce que je pense que c'est trop dur pour lui. Ça nous replonge dans le deuil qu'on croyait avoir fait et qui n'est pas fait du tout. Alors je suis allée au cimetière de Thiers où les cendres de nos proches sont censées être dispersées parce que vu qu'il n'y a pas de traçabilité, rien ne nous prouve que c'est bien les cendres de nos proches d'ailleurs, malheureusement. Donc nous, en tout cas, on ne nous remet rien du tout. Normalement, on a un courrier pour nous prévenir que les cendres sont dispersées, etc. Moi, je n'ai jamais rien reçu du tout. Donc je ne sais pas quand ça s'est passé, cette histoire. Je ne sais pas si ça s'est fait. J'ai demandé à Descartes s'il y avait un reste de ma maman, même infime, de me le rendre pour l'enterrer. Mais ils ne savent pas parce qu'il n'y a pas eu de traçabilité. Donc de toute façon, voilà, on m'a dit que ça allait être très compliqué et je pense que je n'aurai jamais ma réponse. Franchement, on n'a pas d'infos, on n'a rien. Et c'est vrai qu'on n'a pas été reçus là-dessus, on ne nous a pas écoutés, on ne nous a pas demandé ce qu'on en pensait. Je suis même assez choquée de voir la réaction d'ailleurs des ministres concernés qui ne nous ont même pas adressé un courrier, rien du tout. On est complètement laissés de côté, hein. Ça c'est clair.
À l'issue de l'action improvisée au cimetière du Père Lachaise, Laurence en propose une deuxième, cette fois-ci devant l'université, le 27 février, puisque cela fait 3 mois, jour pour jour, que le scandale a été révélé.
Là encore, on ne fait pas de bazar, c'est pas notre but. On veut juste que la justice commence à se dire « Ah bah là, il y a du monde, il va peut-être falloir qu'on instruise les plaintes ». Voilà, c'était juste ça, et une fois encore, on a pris les panneaux avec les portraits de nos proches, et on a manifesté. Voilà, silencieusement, mais on était quand même une centaine, hein. Il y avait quand même du monde.
Il y avait écrit quoi, vous, sur votre panneau ?
Moi, il y avait le nom de ma maman, enfin son prénom, la date de son décès, et j'avais marqué quel sort lui a été réservé.
Le même jour, une nouvelle information vient bouleverser Laurence et toutes les autres familles.
Le matin de la manifestation, moi j'avais des consultations à mon cabinet, donc j'ai pas du tout regardé les infos, etc. J'ai pas eu le temps. Et dans le métro, en partant à la manifestation, j'ai vu des échanges sur WhatsApp de gens du groupe qui disaient il y a eu un cambriolage à Descartes, au 5e étage, au centre du non-décor. Là, je me suis dit, c'est pas possible, hein. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? En grattant un petit peu, j'ai vu qu'effectivement, c'était un cambriolage, qu'il n'y avait pas de traces d'effraction. Il y avait des caméras de surveillance, visiblement, mais le contrat d'entretien n'avait pas été réglé, donc elle ne fonctionnait pas. Donc là, j'étais vraiment très remontée, j'étais très, très, très en colère. Et je me suis dit, c'est pas possible. Là, quand même, ça signe bien qu'il y a des choses qu'on veut nous cacher.
Ce cambriolage a eu lieu en décembre, 6 mois après l'arrivée de la nouvelle présidente de l'université, Christine Clérici. Lors de la manifestation du 27 février, elle accepte de recevoir quelques familles.
Bien sûr, on l'a interrogée sur ce cambriolage, et elle nous a dit que, effectivement, ça s'était produit, qu'il y avait une enquête qui avait été ouverte par la police, et qu'elle ne savait pas si des documents avaient été volés, si des documents avaient juste été consultés, s'il y en a qui avaient été échangés, rajoutés. Voilà, on ne sait pas exactement, mais il y a une enquête qui est en cours là-dessus. Et là, on a pu discuter. Et on a eu, je pense, tous, le sentiment qu'il y avait de la bonne volonté. Qu'il y avait des gens qui avaient envie de coopérer avec nous et de nous aider à avancer. Et de faire la lumière pour eux aussi, parce que cette histoire, finalement, entache quand même l'université. Et je pense que c'est pas bon pour leur image.
Vous attendez beaucoup, vous, de la justice ? Vous pensez que vous pouvez être satisfaite à la fin ?
J'ai confiance dans la justice de mon pays, depuis toujours. Maintenant, je suis un peu plus réservée quand je vois que ça met beaucoup de temps à se déclencher. Grâce au travail des journalistes qui ont vraiment été jusqu'au bout de leurs investigations, on a eu les mails qui se sont échangés en interne, qui ont été publiés d'ailleurs sur le site de France Inter. On a la certitude que beaucoup de gens importants étaient au courant. Il y a eu des alertes à répétition, ça n'a pas arrêté. En disant, s'il vous plaît, dépêchez-vous, faites quelque chose, c'est plus possible. Il y a des souris qui rongent les corps, il y a des corps qui sont pourris, les chambres froides ne sont plus réfrigérées. Et personne n'a rien fait. Antoine Ténière, aujourd'hui conseiller coronavirus auprès du ministre de la Santé. Bon, ben, tous ces gens-là étaient en copie des mails, hein. Tout le monde savait tout.
Votre mère, vous avez expliqué pourquoi elle voulait donner son corps à la science ?
Oui, alors j'étais étonnée du choix de ma mère, qui m'a appelée peu de temps avant son décès, finalement, parce qu'elle savait qu'elle allait partir. Et elle m'a demandé de venir et elle m'a expliqué qu'elle avait fait le choix de donner son corps à la science. Alors, égoïstement, j'ai essayé de la dissuader, parce que déjà, je lui ai dit, bon, en salle de dissection, c'est pas toujours très bienveillant de la part de certains étudiants un peu jeunes qui font des fois des petites bêtises avec les corps. Mais bon, ça a toujours été comme ça. Donc, je lui ai dit, moi, j'ai pas envie qu'on te fasse ce genre de choses. Et puis, tu sais, pour nous, ça va être compliqué de pas avoir d'endroit pour venir te voir de temps en temps, se recueillir. M'a dit, ouais, mais enfin ça, une fois qu'on est mort, tu sais, on est mort et puis je serai partout, je serai là et partout. Ouais, je lui ai dit, ouais, c'est vrai, t'as raison. Et je lui ai dit, bon, je te promets que tu m'as montré où était ta carte de donneur, le jour où tu pars, j'appelle, t'inquiète pas, je le ferai, je passerai pas outre. Et je l'ai fait. Et je m'en mords un petit peu les doigts, mais bon, je me dis que j'ai suivi ce qu'elle voulait, c'est ça qui est essentiel. Je crois qu'elle l'avait vraiment mûri, cette décision-là. Elle a même réussi à persuader mon père de faire la même chose. Donc mon papa va lui aussi donner son corps, bien évidemment pas à Descartes.
Ça vous gêne, vous, que votre père, du coup, envisage de faire pareil, ou alors vous êtes finalement assez apaisée avec cette idée ?
Alors j'ai évidemment essayé de dissuader mon papa. Il m'a dit, non mais là, j'ai promis, et je ne peux pas trahir ce que j'ai dit. Je vais le faire.
Claudia, que veulent les familles dans l'immédiat ?
Dans l'immédiat, elles ont envie d'avoir accès à l'intégralité du rapport de l'IGAS, qui est l'Inspection Générale des Affaires Sociales, parce que pour le moment, ça n'est pas le cas, et elles ont vraiment envie de savoir tout ce qui a été écrit sur cette affaire. L'autre chose qu'elles demandent dans l'immédiat, c'est qu'un juge d'instruction soit nommé pour que les choses avancent et pour qu'il y ait enfin un procès qui ait lieu.
Justement, où en est l'enquête ?
L'enquête, pour l'instant, elle n'a pas déterminé qui était responsable de quoi. Et c'est justement ce que les familles veulent, c'est qu'on établisse très clairement les rôles de chacun, parce que comme on le disait dans le sujet, il est avéré qu'un certain nombre de personnes haut placées étaient au courant.
Merci Claudia Prolongeau. Code Source est le podcast d'actualité du Parisien, disponible chaque soir du lundi au vendredi. Cet épisode a été produit par Stéphane Genest et John Timsit, réalisation Alexandre Ferreira. Si vous aimez Code Source, n'oubliez pas de vous abonner et de laisser un commentaire sur votre application de podcast préférée, comme Apple Podcast ou Podcast Addict. Vous pouvez aussi nous écrire directement codesource@leparisien.fr.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.